Chapitre 24. Aéroport de Kaliningrad, Russie. La Mercedes 190, encadrée des Suzuki, roulait vers l'aéroport de Kaliningrad. Les véhicules doublaient un lent flux presque ininterrompu de camions. Nouri, le chauffeur, baissa le volume de l'autoradio qui diffusait une chaîne d'information polonaise.
« Allô, Morad, c'est Cortès. Où êtes-vous ? »
Cortès attendit quelques instants avant que le mercenaire ne réponde. « Espalion, un trou. Tu ne vas pas me croire, ici on traverse des déserts pires qu'au Kirghizistan. »
« Et le DIRS à Toulouse ?»«
Nous sommes arrivés trop tard. De peu, mais trop tard. Juste un ordinateur éventré pour nous accueillir. » Cortès pesta. Le rire de Morad jaillit dans l'appareil.
« Rassure-toi, Cortès, c'est l'affaire de quelques heures. Nous contrôlons la situation, nous les suivons à bonne distance. » « Je l'espère, Morad, je l'espère. Cela fait deux pièces du puzzle qui te filent entre les doigts. La poutre de Navarra d'abord, le rapport RS2A 2014 ensuite. »
Le jeune mercenaire répondit d'une voix assurée, presque enjouée.
« Deux pièces de perdu, mais peut-être la plus importante de toutes retrouvées, à portée de main. »
Cortès s'impatienta.
« Précise, bordel. »
« Le Vatican. Une fichue pagaille. Nos informateurs ne parlent que de ça ici. Quelqu'un est entré dans l'enfer. Un homme seul, avec dans sa poche un joli appareil photo miniature. »
« Zaki Kabi ?»«
Oui, aucun doute. Tous les témoignages correspondent. » Le ton de Cortès se fit plus pressant encore.
« Trouve-le, Morad. Trouve le livre. Sans le récit d'Enoch, rassembler les fragments d'arche ne servira à rien. »
« Fais-moi confiance, Cortès. Ce fou d'Ikabi a fait le travail le plus difficile. Pour nous. Dès que c'est réglé, nous vous rejoignons à Isaac Pacha, au Nakhitchevan. Avec toutes les pièces, sans laisser aucun témoin derrière nous, rassure-toi. »
Le rire de Morad explosa à nouveau.
« Morad ? »
« Ouais ? » ?»«
Fais attention à toi. »
« Ok, Cortès. T'en fais pas. »
Ils raccrochèrent. Cortès s'avança vers le mercenaire assis à l'avant sur le fauteuil passager.
« Ahmet, appelle-moi Hong Kong. C'est là que le coup suivant va se jouer. »
Mont Arara, 4371 avant Jésus-Christ, hiver. Le bébé allait mourir, c'était certain maintenant. Alum ne pleurait plus. Majka, les seins vides, ne pouvait plus rien pour lui à part bercer son pauvre petit corps froid qui n'aurait connu de la terre que cette grotte sombre, qui n'aurait pas eu le temps de survivre assez de lunes pour connaître les fleurs ou les feuilles aux arbres, qui ne saurait jamais qu'il existait un soleil brûlant au-delà des murs gris de la caverne. Majka posa le nourrisson sur le sol froid de la grotte, près du feu. Elle devait aussi s'occuper de son fils, Bilik. Bilik devait vivre. Il était jeune, fort. Lui seul pouvait remplacer son père Otek à la chasse. Quitter la grotte et trouver du bois dans la montagne, suivre les traces des animaux, les protéger. Majka se leva et approcha du bout d'un long bâton courbé les braises de la peau nue de Bilik. Il continuait de saigner. Pour pouvoir s'approcher du cadavre de l'ours tué par son père, Bilik avait dû écarter les loups à l'aide d'une torche enflammée. Il n'avait pu sortir que lorsque la neige avait cessé de tomber. Il s'était écoulé plusieurs nuits et plusieurs jours avant qu'il ne puisse enfin suivre les croisillons de bois laissés à son intention. Lorsqu'il était arrivé, guidé par Leka qui trottait devant lui, les loups avaient déjà dévoré le corps d'Otek. Une chance, avait pensé Bilik. Il préférait, pour survivre, devoir manger la chair de l'ours plutôt que celle de son père. Les loups l'avaient mordu au bras, à la jambe, mais avaient fini par reculer face au feu qu'il agitait devant leurs crocs. Les blessures ne le faisaient presque plus souffrir maintenant. Majka avait appliqué des herbes de la montagne sur ses plaies, des cheveux de dieu bienfaisant qu'elle arrachait à la terre, puis qu'elle faisait sécher pendant des lunes. Parfois, elle leur en faisait boire, mêlée à de la neige fondue. Pendant des jours, Majka avait passé son doigt enduit d'herbe dans la bouche d'Alum, jusqu'à ce que la bouche minuscule et bleue du bébé n'ait même plus la force de téter. Majka caressait les cheveux de Bilik, tout en frottant de la glace sur sa peau pour qu'elle se referme, comme une bouche qui n'a plus faim. Il suffisait d'attendre. Bilik était conscient qu'il devrait ressortir avant que la neige disparaisse sous la terre. Les lambeaux de chair d'ours qu'il avait arrachés aux loups ne suffiraient pas à passer l'hiver. Désormais, il devait nourrir sa famille. sa mère Machka, sa sœur Ghana, son frère Alom et son grand-père Avo. Avo était maintenant trop vieux pour chasser. Depuis des lunes, il restait recroquevillé au fond de la grotte, silencieux, à regarder les ombres danser sur les murs de la caverne. Sa sœur Ghana était trop jeune et trop fragile. Elle se serrait contre les épais poils de l'Eka qui, depuis qu'elle était revenue sans Otek, n'avait plus jamais quitté les bras de Ghana, sauf pour accompagner Bilik à la chasse ou, de temps en temps, pour se poster à l'entrée de la grotte, comme si elle attendait que la haute silhouette de leur père surgisse au milieu de la plaine blanche. « Pauvre l'Eka, » songea Machka. De sa main droite, elle continua de passer un morceau de glace sur les blessures de son fils. De l'autre, elle tourna avec précaution la viande de l'ours dans le feu. Bilik ne pourrait pas retourner chasser avant longtemps. Elle avait beaucoup discuté avec Otek, avant qu'il ne sorte une dernière fois défier la montagne. S'il n'avait pas tué cet ours, s'il était revenu sans la moindre prise, alors il n'aurait pas eu d'autre choix. Ils auraient dû tuer l'Eka pour s'en nourrir. Elle devrait le faire bientôt, si les étoiles froides continuaient de se poser sur la terre. Elle devrait le faire, et sa fille Ghana s'en laisserait mourir de chagrin. Machka ne comprenait plus rien. Otek lui manquait. Elle ne savait plus quelles étaient les bonnes décisions à prendre. Laisser son fils blessé partir seul dans la montagne comme Otek? Manger l'Eka? Elle se pencha vers son bébé et le rapprocha du feu pour qu'il ait moins froid. Son petit corps respirait à peine. Sa peau, lorsqu'on la touchait, était aussi dure que celle d'un oiseau mort. Otek lui avait parlé d'autre chose avant de rejoindre le ciel. Il lui avait parlé de la plaine. Il lui avait juré qu'il existait un lieu où les feuilles ne tombaient jamais des branches des arbres, où l'eau était si chaude qu'on pouvait y entrer sans qu'elle vous morde, où les étoiles restaient pour toujours accrochées dans le ciel. Il lui avait promis qu'ils descendraient tous dès que les cheveux des dieux repousseraient de la terre, que plus jamais ils n'attendraient dans la grotte, laissant la montagne aux ours et aux loups. Machka devait tenir la promesse d'Otek. Il devait survivre quelques lunes encore. Puis, s'ils étaient encore vivants, ils partiraient rejoindre les autres hommes, ceux dont lui avait parlé Otek, ceux qui vivaient dans la plaine.